un petit test de micro.
1, 2.
Alors, tu vas peut-être reconnaître quelque chose dès le début de l'émission.
Ok.
En fait, il y a un extrait de River Whisper. Un morceau okay. À toi.
Ah oui.
Qui est dans l'indicatif de l'émission.
Ah, oh, si, j'ai écouté sur. Je suis allé écouter sur Internet, je me suis dit, mais j'ai un son à moi là-dedans.
Oui, oui, bah oui.
Ah,
je confirme.
J'ai pas fait. Ah, tiens, je vais regarder. Je suis pas un archéologue. Hein. D'accord.
C'est les premières notes en particulier de l'indicatif qu'on reconnaît.
Je suis ravi.
C'est Supersonic sur France Culture. Bonsoir à vous. La culture a ses machines, les machines ont leur culture, on les écoute ici. C'est du technologique, c'est de l'électronique, c'est du concentrique, c'est supersonique. Ce soir, dans le cadre de la réorganisation de nos services, les invités de l'émission seront désormais classés dans l'ordre alphabétique. Tout à l'heure, attablé à un café à quelques pas de la gare de Lyon à Paris, nous trouverons Fabio Viscogliosi, garçon modeste au talent multiple. Il publie un récit intitulé « Les hors-la-loi », récit plein d'images et de réflexions sur les vertus de l'ennui, du rien. Réflexion qui mène à la création, au rire aussi, à l'absurde. Et pour finir, à quelques accords bien trouvés sur sa guitare et sur son piano. Pendant que je parle, allez donc chercher quelques-uns de ses livres, illustrés ou non, vous vous en féliciterez. Fabio V, donc c'est tout à l'heure, mais avant ça, Franck V. Franck Vigroux, musicien, chercheur, en pleine suractivité, va se poser par ici pour un live et une conversation. Bienvenue à vous. Thank you. c'est compliqué d'interrompre comme ça une plongée dans un morceau signé, en l'occurrence co-signé par Franck Vigroux. Bonsoir Franck Vigroux.
Bonsoir.
Là on entend un morceau qui s'appelle Mutant, qui est une forme d'avant-première, puisque l'album dont il est issu doit sortir d'ici une grosse dizaine de jours, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est une collaboration avec Mika Vainio, plus connu sous le nom de Pansonic. Ouais, donc toute une histoire de la musique électronique
et venu de Finlande en l'occurrence.
Voilà. Et puis pour moi un des maîtres actuels de la musique tout court, parce que dans ce domaine-là c'est quelqu'un qui a un toucher exceptionnel et avec lequel j'ai beaucoup appris. Donc je suis vraiment très fier de cette collaboration qui a abouti à ce double album. Voilà.
Peau froide,
léger soleil.
Léger soleil, tout un programme de sensualité.
Peut-être, non, peut-être, ouais. peut-être.
Et vous avez appris comment, c'est-à-dire comment on trouve sa place comme ça dans un duo, dans ce duo-là en particulier.
Ça s'est fait très naturellement en fait. On a commencé par des concerts. On a commencé par un concert à Paris il y a quelques années. Et en trois jours, on est arrivé à monter un set et voilà, ça s'est très bien passé. Évidemment, on est, pour moi, c'est une influence Pansonic, évidemment, comme fait partie de, comme je disais tout à l'heure, des piliers un peu de la recherche sonore et à la fois d'une musique électronique qui va jusqu'à des terrains proches des influences techno, minimales, mais aussi électroacoustiques ou noise. C'est ça, vraiment un large panel. Donc, pour moi, c'est assez naturel de travailler dans cet univers sonore-là. Donc ça s'est fait assez simplement, et donc on a fait quelques concerts, et peu à peu, on s'est dit... Ah, essayons d'enregistrer les musiques. Ça a pris plus de temps, mais on est arrivé à faire quand même un double album qui... Voilà, donc je suis assez fier.
Franck Vigroux, le mathématicien des rêves. J'ai vu qu'un journal, The Wire, vous avez, un journal anglo-saxon, vous avez qualifié comme ça le mathématicien des rêves. Et c'est vrai qu'on se plonge à la fois dans une dimension à la fois abstraite et sensuel dans beaucoup de vos musiques. Alors vous parliez à l'instant d'un large spectre musical en parlant de Mika Vainio. En l'occurrence, vous avez aussi un large spectre d'activité et d'action. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, vous pouvez intervenir dans la musique électronique, dans la musique improvisée. Vous pouvez travailler pour le théâtre, pour la scène, pour une multitude de formes de performances. Et puis la question du visuel, évidemment, où vous travaillez beaucoup, c'est aussi un de vos champs d'activité. J'ai l'impression que c'est votre liberté, ça, c'est ce qui caractérise votre liberté.
En tout cas, je me sens totalement libre et peut-être c'est un peu, je suis peut-être inconscient, mais probablement, j'ai peur d'aller sur aucun territoire. C'est une liberté incroyable d'être artiste, même aujourd'hui, même avec toutes les difficultés qu'il y a. Donc, j'en profite au maximum. J'espère que j'en fais aussi profiter ceux qui m'entourent et ceux qui viennent m'entendre, me voir, etc. Voilà.
Vous dites même aujourd'hui. Est-ce que c'est pas justement encore plus facile ou encore plus évident, en tout cas aujourd'hui, justement, de ne pas chercher à avoir d'étiquette parce que, on n'a pas besoin de faire un schéma pour expliquer que ce qui se passe dans la musique est en plein chamboulement, économique évidemment, mais pas seulement.
Je sais pas. En tout cas, les choses restent quand même très très cloisonnées et par spécialité. Donc, ce qui concerne, disons, la transversalité, fait un peu peur, évidemment, aux spécialistes qui ne sont pas des spécialistes de la transversalité, mais de la spécialité. Donc du coup, ils doivent apprendre et souvent la musique, par exemple, ou les artistes vont plus vite que les institutions ou ceux qui les suivent autour, puisqu'elles se posent pas des questions sociologiques forcément ou d'archéologie ou je ne sais quoi autour de tout ça. Voilà.
Et vous avez l'impression que dans ce mouvement-là de transversalité qui est le vôtre, vous êtes suivi par les mêmes personnes? Vous accompagnez, vous ouvrez la voie pour des auditeurs, pour des gens qui vous écoutent, qui vont vous écouter sur différentes scènes et différents lieux de votre palette.
je ne sais pas si j'ouvre la voie, mais je vois que j'ai la possibilité de jouer aussi bien, de faire entendre ma musique ou faire voir mes spectacles dans plein de domaines. Et le public réagit toujours très bien. Enfin, il peut partir aussi, etc. Mais il n'y a pas de... Moi, j'ai beaucoup confiance au public. J'évoquais ce spectacle qui s'appelle Tempeste.
Que vous avez joué hier à la Philharmonie de Paris.
Que j'ai joué hier à la Philharmonie de Paris. Donc, c'était plutôt dans un contexte spécialisé, dirais-je. Et il y a 15 jours, je le jouais à Carcassonne pour le...
Les Journées du Patrimoine.
Pour les Journées du Patrimoine, voilà, pardon. Et les gens sont venus sans savoir du tout ce qu'ils allaient voir. Et ils ont vu 40 minutes de bruit visuel et sonore. Ça s'appelle Tempeste et c'est une tempête de bruit dans tous les sens. Mais c'est quand même une vraie composition. Et à la fin, les gens venaient nous voir en disant, on pensait voir un combat de glaive et finalement, on a découvert ça. C'était incroyable. Et personne n'est parti. Et bon, voilà, c'est un exemple très récent. Mais, ça prouve bien que le public peut découvrir par lui-même plein de choses et qu'il faut pas trop le cloisonner ou lui donner trop de direction. Il faut ouvrir un maximum. Mmh. Voilà.
Cette liberté-là, on l'a compris, c'est la vôtre, Franck Vicrou. Ce soir, dans Supersonic, vous nous proposez un extrait de cette tempête que vous avez proposée à la Philharmonie de Paris hier. Il y a toute une série d'actualités, dit-on, de concerts et de représentations qui vous concernent. On va en parler un peu plus tard dans cette émission, mais puisque vous avez parlé de Tempeste, on va en entendre donc un extrait, un live. Vous parliez du public de Carcassonne. Il se trouve que ce soir, on a la chance d'avoir un petit public, une douzaine de personnes qui sont dans le studio 107 ici pour assister à ce live. Donc, comme vous disiez, à Carcassonne, personne n'est parti. On va espérer que ce soit la même chose dans le studio. Je vous laisse aller devant vos machines, Franck Vicrou. Tempeste de Franck Vigrou en live dans Supersonic ce soir. Un extrait de ce que vous avez proposé hier à la Philharmonie de Paris, qui était d'un programme, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Maelstrom. Maelstrom, et il y avait... ça va ?
Très bien.
Ouais. Et une forme de tension, hein, Franck Vigrou, quand vous êtes sur vos machines, là, on sent, on la voit dans vos mains. Dans vos bras.
Ouais, il faut, hein, parce que tout est le moindre. C'est un instrument différent évidemment des instruments qu'on a l'habitude de voir plus classiques, c'est-à-dire que au lieu d'appuyer sur des touches, on tourne des potards par exemple. Mmh. Voilà, on déclenche. Donc il faut avoir la même concentration que sur n'importe quel instrument. En l'occurrence, donc là, ce sont des à la fois des synthétiseurs analogiques, des filtres et des sampleurs, etc.
Donc ce sont des machines, hein, quand on dit synthétiseur analogique, il n'y a pas de clavier. Quand vous dites potard, c'est des potentiomètres, donc c'est des boutons que vous tournez ou que vous montez.
Par exemple, voilà.
Entre autres.
Ouais, c'est juste tout un routage du signal, simplement. Voilà.
Et ça se voit, voilà, cette tension-là d'instrumentiste dans votre corps pendant que vous jouez, assis face, là en l'occurrence la technique est face à vous sur une table, mais j'ai l'impression que le corps c'est quelque chose qui est l'idée de performance, donc l'idée de corps est un peu partout là où vous travaillez, vous, non ?
Souvent, ouais, souvent. J'ai travaillé pas mal ces derniers temps avec soit des comédiens, soit des chorégraphes. Et je travaille encore sur un nouveau spectacle, à nouveau avec, pour cette fois, un chanteur et deux danseurs de nouveau. Et ouais, c'est toute la dimension du plateau, de l'espace, etc., qui m'intéresse, bien sûr.
Mais même dans l'album dont on parlait au début de l'émission, peau froide, léger soleil. Voilà, là, c'est quoi ? C'est la vibration, c'est.
Je sais pas, mais en tout cas, toute la musique que je fais aussi a une vraie physicalité. Mmh. Bon, peut-être on l'entend moins à la radio, parce que on règle soi-même le métier quand ça, on le voit en live. Et évidemment, les volumes sont plus forts et il y a toute une dimension physique due aux extrêmes fréquences que je peux travailler ou les infrabasses, etc. Voilà. C'est physique.
Et d'ailleurs, la recherche de base, la recherche sonore que vous faites, vous vous plongez littéralement dans votre studio, en fait. Vous vous immergez à l'intérieur du son, j'ai l'impression, non ?
Ah, j'aime bien, ouais. Oui, j'aime bien. Mais ça, c'est ma culture aussi de l'électroacoustique. Mmh. Donc, cette musique faite concrète, quoi. Mmh. Oui.
Ça se passe comment, la recherche ? Ça peut prendre combien de temps ? Ça peut prendre quelle forme, la recherche sonore ?
C'est vraiment... C'est multiple. Moi, je peux passer beaucoup de temps sur un synthétiseur, par exemple. On peut outil très simple avec lequel on peut obtenir des temps de sons incroyables. Et puis, voilà, un son plus un autre, on les superpose, on les filtre, etc. Enfin, c'est les bases même de l'électroacoustique. Et après, c'est juste de la composition, voilà. Mais au départ, en effet, c'est pas le côté abstrait de l'écriture plus classique. Il faut trouver la qualité du son et voilà, d'abord la qualité du son et ensuite l'écriture plus formelle.
Alors en ce moment, Franck Vigrou, vous êtes une sorte, je sais pas comment on dit, d'invité d'honneur de quelque chose qui s'appelle Horizon Parallèle, qui est pas vraiment un festival, mais qui sont une multitude de choses qui se passent dans l'Aude. Vous venez en voisin, parce que vous êtes en Lozère, si je me trompe pas.
Oui.
Voilà. Et donc Horizon Parallèle, c'est en votre honneur, c'est le premier numéro d'Horizon Parallèle.
Oui, en effet, c'est une initiative que vraiment je trouve audacieuse, puisque du coup, comme je fais qu'il y a une musique qui passe pas partout, là, en l'occurrence, elle est proposée dans plein d'endroits, comme je disais, du patrimoine ou des salles d'exposition, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une initiative pour un peu vulgariser aussi cette démarche.
Ça se passe, je crois, jusqu'au 10 novembre. En tout cas, la dernière performance que vous proposez, c'est le 10 novembre. Donc, le 13 octobre, la prochaine en date, c'est mardi. Donc, oscillation avec une danseuse qui s'appelle Azusa Takeshi, pardon. C'est faute de frappe. Ça se passe à la coopérative de la collection Cérès Franco à Montaulieu. Donc, c'est dans le nord du département.
Ouais.
Il y a le 10 novembre, donc Les Fleurs du Mal, une performance avec Jean-Marc Bourque, un comédien avec qui vous travaillez régulièrement. Ça se passe à Carcassonne. Et puis, il y a une lecture autour... le 24 octobre, ça se passe, quelque chose qui s'appelle Perspective, une lecture musicale d'Anne Lefebvre et Mathieu Verchowski. Donc ça, c'est aussi dans le programme Horizon Parallèle. Et puis... il y a d'autres choses qui arrivent, parce que je disais suractif tout à l'heure, c'était pas du tout péjoratif, mais vous êtes sur plusieurs fronts en même temps, non seulement plusieurs genres, Franck Vigo, mais plusieurs fronts. Radioland, c'est quoi?
Ensuite, ça c'est la suite d'une collaboration avec Antoine Schmitt, que j'ai pas cité, mais qui est avec lequel je travaille beaucoup et qui fait toute la vidéo générative de Tempest. Donc, qui était hier soir
à la Philharmonie
et qui m'a aussi avec lequel j'ai travaillé sur plusieurs formes et à nouveau là sur Radioland on a revisité avec un musicien anglais, c'était une production qui s'est passée en Angleterre en début d'année, le disque Radioactivity de Kraftwerk.
Oui.
Voilà, on l'a revisité, donc c'est-à-dire qu'on l'a vraiment repris à notre sauce, mais ouais. C'est un disque très important, des premiers disques concept sur cette idée de l'activité radio, toutes les activités radio au départ, et c'était il y a 40 ans, puisqu'il est sorti en 75, voilà, très beau, très, très beau disque, plein d'intelligents, etc. Donc voilà, on s'est dit... on aimerait retravailler cet objet-là. Et donc, ça sera aussi en disque au début décembre.
Voilà, et voilà. D'ici là, à Luxembourg, un concert le 29 octobre. Il y a le festival Bruit Blanc qui est du côté d'Arcueil, là au sud de Paris, à la fin du mois de novembre. Non, vous êtes toujours un acteur essentiel. Et là, on est en train d'entendre une collaboration avec Reinhold Friedel, un pianiste. Et ça, c'est à venir sur le label Monotype. Un label polonais. Là encore, la collaboration, c'est important d'échanger, j'ai l'impression. Tout en changeant d'univers, en l'occurrence.
Bien sûr. Donc, j'ai plus beaucoup de projets de groupe, etc. Mais j'ai encore quelques duos, comme avec Mika Vainio ou Reinhold Friedel, qui est un musicien berlinois, fondateur de Zeitkratzer. Justement aussi un explorateur qui Zeitkratzer, c'est un ensemble qui de musique dite contemporaine qui invite des musiciens qui vont aussi bien du champ de la noise que l'électronique conceptuelle, etc. Par exemple ils ont fait le Metal Machine de Lou Reed en live avec Lou Reed, donc c'était que des initiatives comme ça un peu voilà, c'est quelqu'un de passionnant avec qui j'aime beaucoup jouer.
On avait avec nous ce soir dans Supersonic un militant et un praticien de la musique libre, ouverte, partagée. C'est vous, Franck Vigroux. Tous les éléments, évidemment, toutes ces actualités, on les rassemble sur le site de Supersonic sur franceculture.fr. On aurait pu parler de votre label à vous, d'autres cordes, là où vous le transformez en une forme de sinon chef de bande, en tout cas organisateur d'une forme de bande ouverte. Il y a plein de choses. Donc, on espère qu'on pourra continuer à parler avec vous. Voilà, encore une fois, militant de cette liberté-là, liberté musicale, et à travers plein de frontières, parce que vous avez des publics un peu partout dans le monde. Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci à vous.
Restez avec nous.
France Culture, vous êtes à l'écoute de Supersonic. De Thomas Baumgartner.
Arrive la deuxième partie de Supersonic, toujours dans le cadre de l'organisation alphabétique des intervenants dans l'émission. Après Franck Vigroux, nous allons à la rencontre de Fabio Visco-Gliosi, dessinateur, peintre, musicien. Là, ce qu'on entend, c'est du Fabio, ça s'appelle Rumbubble. Il est aussi écrivain. Il publie ces jours-ci Les Hors-la-Loi aux éditions Confluence Frac Aquitaine, dans une collection où des auteurs écrivent autour d'une œuvre d'art contemporain. On s'est posé à la terrasse d'un café parisien, rue de Lyon, non loin de la gare de Lyon, et il arrivait de Lyon. La situation était donc parfaitement rectiligne. On a commencé à parler de ces Hors-la-Loi et on avait plus ou moins prévu de s'en échapper. Voyons ce qu'il en est. Fabio Viscogliosi, quand il s'est agi de pointer l'œuvre sur laquelle il allait écrire, ça n'a pas été compliqué.
Mon choix s'est fait en quelques secondes et il se trouve que ces deux artistes, Fischli et Weiss, en fait, donc un artiste suisse des années 80, 90 et 2000, m'ont toujours, ont été très présents comme ça depuis longtemps pour moi. Et pour des tas de raisons, leur relation, au burlesque, une sorte de philosophie burlesque, un peu les Buster Keaton comme ça de l'art. Et cette photo, donc, elle s'est imposée un peu comme une évidence, qui est une photo de la série où ils ont mis des objets en équilibre et ils ont photographié dans leur atelier. Et ça donne des formes de sculpture comme ça, éphémères, totalement dérisoires, presque pathétiques dans leur tentative d'élévation. Mais c'est à travers ce dérisoire, ce pathétique, là en l'occurrence deux chaises en équilibre. C'est ce qui me touchait, oui.
Les deux chaises en équilibre, l'une sur l'autre, il y a une forme de poteau qui en tient une, il y a une autre qui tient sur un pot, l'autre sur un verre. On s'attend évidemment à ce que ça tombe dans quelques secondes. Il y a de l'humour là-dedans, beaucoup d'humour.
Oui, oui, il y a dans toute leur œuvre, en fait, il y a énormément d'humour. Un humour parfois en demi-teinte, comme ça, ou implicite. C'est pour ça que je pensais à Buster Keaton, c'est celui qui ne sourit jamais, mais en fait, qui provoque une sorte d'esprit, en fait, on pourrait dire. Quelque chose entre le zen et le burlesque aussi, qui réunit comme ça toute une famille de gens à travers les temps, on pourrait dire. Et la famille à laquelle moi j'ai toujours eu le sentiment, en tout cas, sinon d'appartenir, de désirer appartenir. Et il y a beaucoup d'humour, ouais, dans ces chaises. Ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas du tout de vanité. Au contraire, ça souligne plutôt justement le caractère un peu dérisoire de tout équilibre, de toute entreprise humaine, peut-être, d'élévation, tentative d'élévation. Et le caractère éphémère de cette tentative est incorporé à la photo elle-même. C'est-à-dire, comme des équilibristes, on sait très bien qu'il y a le risque de tomber, la redescente ensuite.
La redescente, la chute, équilibre, donc c'est le nom de la série d'où est issue l'installation. Et l'autre titre, c'est Un après-midi tranquille, donc qui est une autre forme d'équilibre fragile.
Oui, et on retrouve aussi leur humour. Ils disent qu'ils ont fait cette série de photos d'objets en équilibre, justement pour combler les après-midi qu'on imagine au café, espèce de creux de l'après-midi, jusqu'à la marinade peut-être, la marinade de Flaubert. C'est-à-dire ces moments de vacuité totale de l'esprit et du corps où on ne sait pas quoi faire, et sinon empiler quelques objets devant soi. Eux, ils racontent quelques morceaux de sucre, en fait. De là est née l'idée. Donc ces après-midi tranquilles sont aussi une manière d'occuper le temps, et ça renvoie finalement à quelque chose, à un problème existentiel qui est celui de l'occupation du temps, l'occupation de ses mains dans le temps. Et que peut-on faire? Donc oui, il y a énormément d'humour, et en même temps il y a à travers cet humour aussi une forme sinon d'angoisse, enfin, ça souligne quand même quelque chose, je trouve, qui pourrait relever de notre inscription dans le temps, en fin de compte, hein, c'est ça, mais dit avec toujours des outils très concrets, et d'où l'humour.
La question de l'occupation de ses mains, du creux, de l'ennui, mais c'est aussi, on va dire, quasiment le paysage du récit que vous proposez dans ce livre-là, parce qu'il y a toute la... une petite mise en abîme. Vous racontez que vous avez la mission, ou en tout cas l'objet, de travailler sur cette photo-là, sur cette œuvre-là, et vous le racontez en vous mettant en scène vous-même.
Voilà, alors le parti que j'ai pris, c'était d'inscrire immédiatement la commande qui m'était faite d'écrire à partir de cette photographie, avec tout ce que ça suppose justement de contraintes, parce que je ne possède pas la photographie en question, je n'en ai qu'une reproduction moi-même depuis mon imprimante... Et donc je me promène avec cette photo dans la poche et le récit s'inscrit au cours de 24 heures où je suis censé me rendre, enfin le narrateur est censé se rendre pour une lecture dans un château en Bourgogne. Et là, à nouveau, on retrouve cette occupation du temps et c'est le dérisoire et l'ampoulé des circonstances dans lesquelles on peut se retrouver dans la vie et dans la vie d'un auteur. Et puis la relation avec un lieu tout à la fois historique mais totalement étrange et très très décalé par rapport à ce que moi je peux connaître. Et donc la réflexion à partir de cette photo va se doubler des événements dans le château. Et dans le parc du château et dans les bois alentour et dans le avec les gens et les animaux qui sont là aussi.
Et les oies en particulier.
Voilà, en particulier une très belle famille d'oies qui errait dans le parc. Et ça reprend cette idée aussi d'épiphanie comme ça, c'est-à-dire où à la faveur d'une nuit ou d'une journée, on est dans un certain endroit et tout à coup, les éléments viennent s'imbriquer les uns dans les autres et nous mettre dans une hyper-conscience de cet instant et une dimension un petit peu, alors j'espère humoristique aussi et burlesque, mais quand même une dimension existentielle dans ce grand tout en fait, dans lequel on vient s'inscrire. Et à la fois totalement dérisoire, donc ça déboulonne un petit peu l'emphase qu'on pourrait mettre dans certaines situations. Ouais.
Justement, il y a peu d'emphase, le personnage de narrateur, peut-être vous-même, déambule beaucoup, et vous êtes quasiment tout le temps en mouvement en fait, dans ce livre-là, à peu de choses près. La réflexion, parce que vous, il y a la question de l'ennui, des bras ballants, grosso modo, et puis de la réflexion avec cette image, vous êtes face à cette image qui est un peu... tout ce qui peuple la chambre dans laquelle vous êtes, par exemple, dans laquelle le narrateur se trouve. Et donc, oui, vous êtes en mouvement.
Oui, il y a un côté voyage autour de ma chambre, en fait. C'est-à-dire, il y a cette idée d'un mouvement perpétuel dans lequel on s'inscrirait. Là, en l'occurrence, les chaises sur la photographie, elles sont immobiles, elles sont en équilibre, mais elles supposent elles-mêmes un mouvement possible, en fait. Et je pense que tout simplement... mais de manière générale, peut-être dans tout ce que j'ai pu écrire ou dans mes autres formes que j'ai pu aborder, il y a cette idée du mouvement produisant une certaine électricité. Même si c'est un mouvement lent, le mouvement des jambes, le mouvement des bras, le mouvement de la tête ou des pensées elles-mêmes qui s'agitent dans notre tête. Mais pour moi, c'est indissociable. La pensée s'inscrit dans un micro-mouvement, une déambulation souvent. Et c'est à la faveur de cette déambulation, que ce soit dans une chambre, dans les couloirs d'un château, dans un parc... dans une rue ou au volant de sa voiture, en fait, il y a cette idée que l'esprit se met en mouvement. Alors, il se met en mouvement de manière un peu trop... on a tendance à tout de suite à gonfler un peu nos pensées parce qu'on est pris, on a peur, on est fatigué, on est inquiet. Et donc, ça génère une espèce de cascade de pensées. Et il y a cette idée de la réaction en chaîne aussi. Une mouche entraîne va vers une fenêtre à travers laquelle on regarde le parc et tout à coup nos pensées s'envolent vers le ciel et on est dans des réflexions métaphysiques ou interstellaires alors même qu'on est toujours en équilibre dans notre chambre à notre fenêtre. Donc j'aime bien cette dimension-là. Oui.
Ah ben c'est même au cœur d'une partie du style d'une partie des choses que vous faites parce que vous êtes un artiste qui a une multitude de facettes mais votre écriture fonctionne comme ça en arborescence on peut dire.
Oui, il y a des constellations de mouvements, de pensées, de petites actions, de petits équilibres aussi, qui sont tout simplement le reflet du quotidien et de la vie, mais à l'intérieur de ces moments ordinaires, en fait, s'inscrivent de petites pensées. C'est vrai que c'est au cœur de tout ce que j'ai pu écrire. Je tiens beaucoup à ça, le caractère concret en fait, de ces mouvements-là, qui toute expérience ou toute réflexion est issue d'une expérience. Voilà. En gros, c'est ça. C'est il n'y a pas de réflexion qui flotterait dans une sorte de présence immanente de la pensée ou de l'esprit. L'esprit s'inscrit nécessairement dans un caractère concret, formel, une dimension de l'espace dans lequel on doit s'agiter ou bouger.
Et on relance soi-même alors, d'une certaine manière, les références, les réflexions qui sont issues d'autres expériences. Et on le relance par sa propre expérience.
Oui, c'est ça. Alors là, on est dans une ultra mise en abîme du monde ou de l'histoire du monde ou de sa propre histoire et des souvenirs qui viennent se caramboler avec les réflexions et avec ce qu'on observe sur le moment. Et alors, ça ouvre une forme d'art de la digression, on pourrait dire comme ça, où Mais c'est pas le coq à l'âne, en fait. Quand on vit ça, et on le connaît tous, puisque finalement c'est ce que vit chacun, on trouve une grande logique, en fait, au chemin de nos pensées, associé au chemin de notre corps, en fait. Donc ces digressions, ce terme de digression, il est à la fois vrai, puis il est un petit peu usurpé, parce qu'en fin de compte, pour nous, c'est absolument pas digressif. C'est très logique de voir une oie et de s'interroger sur le destin de l'humanité, tout simplement parce qu'on va créer des chemins parallèles. Et à cela vont s'associer le souvenir d'un film ou d'un livre ou la phrase d'un écrivain ou je ne sais quoi. Et on trouve une grande logique, en fait, à ces mouvements un petit peu de convulsion de la pensée.
Mais j'ai pas parlé de digression, j'ai parlé d'arborescence.
Oui. Non, c'est moi qui ai associé par une sorte de réflexe cette idée. Mais effectivement, il y a l'arborescence qui ici est presque représentée de manière métaphorique à travers les ramifications du château et le parc lui-même et les chemins à travers le parc, les bois, les arbres même. Donc effectivement, je crois que on est presque dans une illustration une sorte de méthode même de travail. C'est ce que je voulais faire dans ce livre, parce que dans mes livres précédents, cette arborescence, elle est exposée, c'est-à-dire ce sont des livres-albums avec des tas de moments, de chapitres, des temporalités différentes. Ici, on est dans une unité de temps, qui sont les 24 heures du récit, mais dans cette unité-là viennent s'inscrire des tas de moments.
Le fortuit révèle l'existence, citation que vous mettez dans ce livre-là, dans un des chapitres de Braque. Et il y a comme un écho, il y a un autre peintre qui est cité plus à la fin, avec, c'est Matisse, avec un peu la même idée.
Oui, des peintres qui étaient contemporains, c'est-à-dire Braque, Matisse, il aurait pu y avoir Picasso là au milieu. Les réflexions de Braque sont toujours, elles ont un petit côté mélancolique souvent, mais elles sont souvent d'une grande justesse, je trouve, dans sa relation en l'occurrence, lui, il parlait de sa relation à la peinture ou à l'art, mais c'est le fortuit qui révèle l'existence, je trouve, ça s'applique très très bien, par exemple, à l'œuvre de Fischli et Weiss. Mais de manière générale, ça s'applique, moi, à tous les artistes qui m'intéressent. Mais je pense que c'est aussi la réalité de notre vie. Je pense que c'est vraiment le fortuit qui nous révèle l'existence. Et on est sans cesse à conjuguer, on va dire, la volonté et l'intuition et le hasard. Il y a un carambolage de ces éléments-là. On ne peut pas vraiment prévoir, en fait, les choses. Même si on essaye de planifier, c'est le fortuit qui va tout à coup amener une étincelle ou un éclairage qui va complètement bouleverser ce que l'on avait prévu. Je l'ai décrit dans mes livres précédents. Alors ça peut opérer soit de manière tragique, dans certains cas, ce fortuit peut être catastrophique. C'est l'accident, ce sont toutes ces choses-là, les drames. Mais il a aussi des vertus bénéfiques, souvent. Je pense que Braque se référait aussi à ça, c'est-à-dire l'agencement du hasard qui, tout à coup, nous met en présence d'une grande justesse des formes, en fait.
L'accident heureux.
Il y a l'accident heureux, voilà. Le mot accident est très ambivalent et on est obligé d'accoler l'adjectif heureux, mais le fait est que l'accident est peut-être inévitable dans le mouvement de notre vie, au-delà même de la création, je pense, tout simplement de la vie. Donc.
Et on révèle pas un secret, mais l'accident arrive à la fin, au sens strict quasiment,
oui.
À la fin de ce livre-là, de ces hors-la-loi. Est-ce que vous vous ennuyez ? Vous arrivez encore de temps en temps à vous ménager des moments d'ennui, Fabio Viscogliosi ?
Ben, je parle de cette relation. Le titre de Fishley et Weiss, cet après-midi tranquille, me renvoie à ces après-midi de l'enfance dans lesquels on s'ennuie parfois, mais où c'est les moments où il y a une grande invention de l'enfant pour contrecarrer cet ennui. Donc, je dirais que je m'ennuie tout le temps, mais en fait, je ne m'ennuie jamais, comme tout le monde. Mais effectivement, j'ai aussi la conviction que cette occupation qui est la mienne, par exemple, de dessiner beaucoup, d'écrire, de composer de la musique, d'enregistrer, a une relation avec cet ennui, avec cette nécessité d'occuper le temps, de trouver des stratégies afin de contrer l'ennui possible. Dessiner, pour moi, c'est vraiment aller contre l'ennui, mais dans une occupation relativement modeste et simple, donc un caractère d'humilité comme ça dans ce qu'on peut produire.
Et vous dites à un moment donné dans le livre quelque chose comme il faut se forcer ou réussir à trouver le moment pour voir les choses différemment, y compris le quotidien, tordre un peu le cou pour voir les choses différemment. C'est l'ennui qui permet ça, c'est la zone non peuplée qui permet tout d'un coup un peu ça, où on peut s'offrir ça.
Je pense qu'il faut quand même dans mon livre précédent qui s'appelait Apologie du slow, je faisais une sorte comme ça d'apologie justement de la lenteur qui nous permettrait de ménager des espaces ou des interstices à l'intérieur desquels notre esprit peut s'occuper. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, d'occupation du temps et de l'espace. Il y a aussi une attention, enfin moi que j'ai, c'est absolument pas une thèse ni un dogme, mais c'est quelque chose qui me travaille, c'est cette relation entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Il me semble que l'histoire et la lecture qu'on a des œuvres ou des choses appuient beaucoup sur l'extraordinaire, le caractère extraordinaire. Et je pense que notre vie est faite d'ordinaire, mais cet ordinaire est spécial, ou il est particulier. Alors je cite d'autres artistes qui ont réfléchi à ces questions-là, que ce soit les poètes zen et leur approche à travers le haïku, par exemple, d'observer chacun des instants, ou un artiste comme Robert Filliou aussi qui réfléchissait beaucoup à ça, c'est-à-dire le caractère à la fois dérisoire, ordinaire, banal, quotidien du monde, et le caractère extraordinaire de cet ordinaire, c'est tout à coup notre attention à ces instants-là. Voilà, il y a quelque chose qui se joue comme ça dans une sorte de dualité ou de paradoxe, on pourrait dire, de l'ordinaire.
Mais c'est aussi un propos surréaliste, détourner ce qui paraît comme ordinaire.
Oui, mais alors avec une manière modeste, c'est-à-dire sans entre guillemets l'emphase du surréalisme qui insiste beaucoup justement sur l'absurdité ou justement ce qui surgirait, mais au contraire dans ce sens moi je me rapprocherais plutôt d'artistes ou d'écrivains qui sont dans une relation d'étrangeté de cet ordinaire, c'est-à-dire qu'il est tout simplement présent. Je pense que c'est le réel qui est à la fois terriblement ordinaire et terriblement étrange, donc au même instant. Donc il faut trouver une sorte de position d'équilibre, justement, comme les chaises sur la photographie. Elles sont, on ne peut plus, banales, et en même temps, elles ont un caractère d'étrangeté absolue, en fait.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Fabio Visconti, vous êtes écrivain, dessinateur, peintre, musicien. Il y a eu une évolution ces dernières années dans ce que vous dessinez. Vous êtes éloigné de la figuration pour aller vers donc une forme d'abstraction. Est-ce que ça a été parallèle avec le développement de l'écriture et de l'écriture narrative en particulier? Est-ce que la figuration est passée du dessin à l'écriture?
Oui, je pense que c'est assez juste. Je m'étais fait cette réflexion-là. Effectivement, le caractère concret de la narration à travers un livre, où finalement, moi, j'utilise des formes relativement simples et très... on pourrait dire un récit relativement classique, même, m'a permis d'évacuer cet aspect-là dans les dessins ou les images ou les peintures que je peux produire et qui, effectivement, se sont orientés de plus en plus vers une forme, sinon d'abstraction, en tout cas de non-représentation d'objets réels ou de formes réelles. Mais en même temps, ces formes, pour moi, ont un caractère très concret dans mes dessins, que ce soit des formes géométriques, des objets, des lettres. Et on retrouve cette idée de l'assemblage de tous ces éléments-là, une sorte d'alphabet personnel que je trimballe et que je réagence à volonté comme des acteurs que je convoque pour un dessin, pour une peinture, en fait.
Finalement, c'est peut-être moins la figuration que la narration qui a disparu des dessins.
Oui, je caresse cette idée d'une forme de peinture pure, c'est-à-dire qui peut se dispenser justement d'un récit qui viendrait la conforter ou nous l'expliquer ou nous la raconter. Donc c'est une sorte d'idéal comme ça, où le tableau doit parler par lui-même, en fait, dans le langage du tableau. Et le livre doit parler dans le langage du livre. Et le livre ne doit pas être commentaire de lui-même non plus, il est lui aussi fait de récits qui incorporent des sensations implicites pour le lecteur et qui peut-être ne doivent pas être plus explicitées, en fait. Elles doivent laisser à chacun sa capacité d'interprétation de ce qui est raconté aussi.
Et dans le même temps, comment a évolué votre musique?
Alors ça, c'est encore une vaste question. Peut-être qu'elle est à mi-chemin entre le récit, puisqu'il m'arrive de chanter, d'écrire des chansons. Donc on retrouve peut-être le récit qui serait celui, je ne sais pas, peut-être proche des livres. Mais on retrouve aussi cette abstraction proprement musicale et qui, elle, rejoint pour moi le dessin aussi. Donc c'est peut-être à mi-chemin entre les deux. Donc il y a une grande cohérence à ces activités qui me permettent de basculer d'une forme à l'autre.
Et le son serait la synthèse, en fait?
Le son serait l'art absolu. La synthèse, possiblement, oui. On me dit souvent que je fais plusieurs choses, effectivement. Je publie tantôt un livre, et puis ensuite je fais une exposition de peinture ou de dessin, et puis ensuite je fais un disque. Mais finalement, ce sont les trois formes qui me sont familières depuis l'enfance ou l'adolescence, et qui toutes viennent s'articuler comme ça, et viennent me combler une partie, en fait. Donc j'aurais du mal à la fois les distinguer ou à les expliciter de manière absolue. Je crois quand même qu'il y a un caractère très, très abstrait dans la musique, de manière générale. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont les gens l'approchent, l'abordent. Donc dans le son, il y a quelque chose de très direct et de manière irrésolue, très abstrait aussi, je pense. Et c'est ce qui fait sa beauté.
Fabio Visconti, donc, qui publie les Hors-la-Loi chez Confluence Frac Aquitaine. Et on a entendu de lui dans l'ordre pas alphabétique, Rumbubble, Phenomeno et Giorni Dolci. Supersonic, c'est terminé. Pour en connaître le sous-texte, le contexte et le prétexte, il faut aller sur franceculture.fr. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Et au son multiple ce soir, il y avait Delphine Baudet. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Allez, dormez bien.